J'invite les différents participants à la table ronde à venir nous rejoindre, à savoir Michel Girard, Tim Grisson, Michel Laforcade, donc vous y êtes, pardon, Jacques Maresco, Corinne Martinez, le professeur Christine Passérieux et docteur Sylvie Perron. On va vous mettre trois chaises, je vais me lever et tout ira bien, il n'y a pas de souci. On me chasse, absolument. Rassurez-vous, j'irai de l'autre côté. Voilà. Et en attendant, allez-y, installez-vous, monsieur.
Pour l'instant, je vais faire la
liaison. Pascal Mariotti va faire la liaison.
Et notamment, on va, en fonction de tout ce qui s'était dit, adapter le format de la table ronde. Alors, c'est vrai qu'on a... On a un plateau qui est contraignant.
La table n'est pas ronde.
Je vous invite à vous répartir plus globalement parce qu'on n'est pas complètement tributaire des présentations. Ensuite, à l'écran, c'est cet écran au milieu.
Bonjour, docteur. Ça va bien ?
Ça va.
Ah ben voilà, vous avez trouvé votre chaise alors. Non, c'est bon, on vous en ramène une. Oui, donc on peut commencer si vous le voulez.
On va lancer.
Girard, oui. Merci. Merci.
Venez un peu plus.
Monsieur Thyssen, installez-vous, on ramène une chaise. Je vous ai dit, on ramène une chaise, vous inquiétez pas. Elle arrive. Voilà, installez-vous. Comme ça, on y voit clair. Tout est parfait.
Tu peux t'allonger sur la table.
Alors, ça veut dire qu'on dispose à peu près de... Voilà. On dispose à peu près d'une heure et quart pour la table ronde, ce qui est quand même assez confortable. On verra si on passe toutes les présentations qu'on voulait insérer, parce qu'elles sont aussi très tributaires de la relance des échanges et de l'illustration pour faire réagir aussi pendant la table ronde. Alors moi, je voulais, au nom, je pense, de tous, remercier Michel Laforcade de sa présentation, de l'avoir fait de façon extrêmement synthétique, mais je pense que c'était l'objectif même. Et puis c'est vrai que derrière, on sait que ça provoquera sans doute de multiples débats, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est la conviction et le volontarisme. Avec en permanence cette question de savoir ce qui va dépendre des textes et des directives nationales, et puis de la capacité et surtout de l'engagement des différents acteurs, comme ça a été souligné. Sur cette base, l'idée donc de la table ronde, parce qu'on s'était dit avec Pascal Brulon qu'on s'adapterait à la façon dont ça se serait passé jusque-là, ce qu'on aurait appris. Moi, je fais un premier constat, c'est qu'on s'autoflagelle beaucoup à dire qu'on parle trop de psychiatrie et pas assez du reste. Je trouve que là, au fur et à mesure de la journée, on parle de plus en plus de ce qui va faire santé mentale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on soit prêt à le faire, capable de le faire, hein, ce n'est pas le propos, mais au moins, on est quand même dans le sujet. Ensuite, pour finalement être dans la continuité de ce que Michel Laforcade nous a dit, et en particulier nous a un peu tendu la perche, je n'ai pas fait exprès, je vous propose de repartir, comme on ne peut pas explorer la totalité du rapport à travers les interventions, sur un certain nombre de choses que nous dit le projet de décret, tel qu'il a été soumis au groupe évoqué du Conseil national, et tel qu'on le connaît depuis bientôt 48 heures. Donc ça veut dire qu'on ne va pas vous demander de propos liminaires, hein, on va rentrer directement dans la réaction, et le jeu il va aussi se jouer entre vous sur un stand de questions. Et puis il va falloir qu'on essaie de jouer l'interactivité avec la salle, ce qui est jamais complètement évident. Autre point, c'est que là, vous avez vu qu'on est en train de sortir de la question du diagnostic, des outils, pour rentrer maintenant dans la question des contenus. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de réagir, on demande à la salle de réagir, mais il s'agit aussi de discuter de préconisations de solutions, comme le rapport donc, nous y invite. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut ouvrir sur la suite. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion. Pour ne pas être bien plus long, et puisque le projet de décret n'a pas encore été lu par grand monde, on ne va pas le lire par le menu, il fait deux pages. Deux points. L'article premier... nous dit que le projet territorial de santé mentale dans ses priorités doit répondre à un objectif de rétablissement. Donc là, on est sur un changement de paradigme. Le but poursuivi n'est plus seulement la stabilisation des troubles, mais la promotion des capacités des personnes, leur maintien ou leur réengagement dans une vie active et sociale choisie. D'autre part, on évoque les trois champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Pour le champ sanitaire, il s'agit bien de développer les soins ambulatoires. Je ne développe pas, pour ce qui me concerne. Et puis, il y a 6 têtes de chapitre, qui font 6 articles, et je rajouterai 3 aspects. Et c'est sur ces questions-là que, moi, j'aimerais vous entendre réagir et qu'on puisse, entre vous, organiser l'échange et la contradiction et avec la salle, parce qu'on a là des points d'entrée, des points à traiter, que d'ailleurs Michel Lafourcade a évoqué pour une bonne partie d'entre eux. Alors c'est vrai qu'on l'évoquait hier directement avec Jacques Maresco, l'approche est peut-être encore justement trop sanitaire, elle ne fait sans doute pas encore suffisamment sa place, si ce n'est au médico-social, du moins au social, et c'est un texte en évolution. Premier point, c'est la question des délais d'accès à un diagnostic valide et à une prise en charge adéquate. Comment on progresse, qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième point, et vous l'avez évoqué, notamment à travers la question des soins somatiques, comment est-ce qu'on augmente l'espérance de vie des personnes atteintes de troubles sévères, de troubles mentaux sévères ? Quelques idées sur la question. Troisième point, comment est-ce qu'on prévient, est-ce qu'on gère les situations d'urgence et de crise ? Quatrième point, comment est-ce qu'on favorise l'insertion des personnes en situation de risque ou de risque de handicap psychique ? Cinquième, pour résumer, comment est-ce qu'on favorise l'empowerment des personnes et de leur entourage ? Voilà, c'est 5 points. Et puis vous rajoutez la question du panier de soins et de services. Je pense qu'elle mérite d'être discutée, notamment à travers l'idée d'une instruction sur le sujet. Vous rajoutez aussi fort utilement la question du domicile, même si ça recoupe dans une large mesure les autres sujets. Puis ce matin, on a beaucoup parlé de la première ligne, et vous l'avez évoqué également. Donc moi, je m'arrête là. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Il ne s'agit pas de... Michel est volontaire. Il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris, d'afficher la position en général connue de chaque institution, quelle qu'elle soit, mais de relancer sur ces questions-là en disant maintenant, on est d'accord ou pas d'accord sur l'approche et le paradigme de la santé mentale, on l'est ou non, ça c'était l'année dernière, sur la question du rétablissement, de la réhabilitation. Il y a beaucoup travaillé, parce que l'année dernière, M. Lafourcade, pendant toute une journée, même un peu plus, un jour et demi, la thématique des journées, et notamment le centre de preuve, et pas que lui était là, c'était bien la question des nouveaux savoirs, ce qu'on appelait à l'époque, on n'en parle plus comme ça maintenant, les nouveaux savoirs validés, ou quelque chose comme ça, avec le ministère. Donc, comment vous voyez-vous la mise en œuvre, la mise en action ?
Alors, merci. Eh bien, moi, comme j'ai travaillé une partie de la journée avec ces dames qui sont en plus là, M. Lafourcade et d'autres, bon, je réponds tout de suite que les titres ne nous ont pas forcément plu et que l'introduction du décret non plus, car il ne prend pas assez en compte la notion de parcours. Ça a été bien dit par M. Lafourcade, je le remercie. Et je remercie aussi Grenoble du témoignage concernant ce qui est pour moi exemplaire, c'est-à-dire les conseils locaux de santé mentale. Et c'est cette dimension qui n'apparaît pas assez dans le décret, de façon à ce qu'il y ait une communauté d'acteurs qui se retrouvent au niveau du territoire, avec ce fameux panier, chacun apportant sa contribution, de façon à ce qu'il y ait une prise en charge qu'aujourd'hui, pour 75 à 80% des cas, les familles assurent. Et nous, les familles, on va mourir avant nos proches. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, cette coordination de parcours est essentielle. Et du coup, ce que nous demandons, c'est que le décret traduise bien cette volonté, en particulier le 5e point, qui parle d'insertion. Non, c'est faciliter un parcours de santé pour nos proches. Et j'ai demandé que cet article soit presque mis en tête. Car dans le parcours, il y a les soins. Mais le premier article, c'est intensifier les soins. Bah oui, quand il y a besoin, on intensifie les soins. Mais le début, ça n'est pas ça pour nous. Et le bon exemple du Conseil local de santé mentale, c'est de faire monter le même esprit au niveau du territoire, du contrat de territoire, diagnostic et tout ce qui s'ensuit. Mais, notion fondamentale, le Conseil local de santé mentale a un pilote, ou un copilotage, mais une seule tête qui est habilitée à faire venir tout le monde. C'est le maire. Quelle est l'autorité habilitée au niveau du... ce qui pourrait être c'est la communauté psychiatrique de territoire, mais ça pourrait être le conseil de territoire, de santé mentale. Donc, quel est ce pilote ? Bon, on en a déjà parlé avec le président de l'ADESM. C'est quelque chose qu'il nous faut travailler pour le présenter, car il faut que ça fonctionne. Pour nous, c'est l'objectif absolu.
D'autres veulent réagir à d'autres points éventuellement de ce projet de décret ? Prenez le micro, vous avez un micro HF sans fil, voilà.
Merci.
Moi, c'est pas le projet de décret à proprement parler.
Non, voilà, oui.
C'est plus globalement la politique de santé mentale.
Corinne Martinez.
Donc, moi, ce que, juste, et pour peut-être clore sur le projet de décret, on y retrouve quand même pas mal, donc, nos 5 portes d'entrée du parcours, dans la mesure où vraiment la méthode qu'on propose, enfin, le questionnement donc, des personnes qui ont ouvert cette démarche, c'était vraiment de partir donc, de la personne. Et je pense que quand on change de paradigme comme ça, on trouve d'autres solutions et ça devient plus facile donc, de répondre aux besoins. Et donc la territorialisation, moi, je pense que là, pour le coup, c'est à géométrie variable en fonction des acteurs en présence. Il faut partir d'un cadre, mais vraiment respecter ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que l'équité et l'égalité d'accès aux soins, aux accompagnements auxquels vous tenez tant, c'est ça la cible et c'est ça vers lequel il faut tendre, en partant de situations très disparates. Donc voilà.
Professeur Christine Passérieux, qui vous êtes co-responsable du Centre national de preuves à Versailles.
Alors, il a eu effectivement une vocation nationale, ce centre de preuves, mais il s'appelle le centre de preuves en psychiatrie et en santé mentale, parce qu'il existe des centres de preuves dans d'autres disciplines médicales. Et il est né il y a 3 ans, en même temps qu'un certain nombre d'autres centres de preuves. Alors, la pression temporelle est un peu difficile pour avoir un propos très concis, mais je voudrais d'abord dire à quel point tout ce que vient dire M. Lafourcade est tout à fait en cohérence avec ce que nous avons pu observer au niveau des données de preuve en international. Et je peux rajouter que nous avons le sentiment que vous avez écouté ce que nous avons espéré apporter à la communauté. Et je voudrais aussi reprendre par rapport à ce que M. Girard disait concernant la question des parcours. Alors, ce que je voulais réaffirmer, enfin, remettre en perspective, c'est d'abord que mon propos se limite aux personnes souffrant de troubles mentaux sévères et persistants, mais je pense que c'est là ce qui nous rassemble tous comme population. L'ensemble des propos qui ont été tenus ont mis en avant le paradigme du rétablissement, ce que le décret réannonce. Et ce paradigme du rétablissement, il associe un certain nombre de caractéristiques communes quant aux organisations qui permettent d'accompagner, de soutenir le mouvement du rétablissement des personnes. Monsieur Lafourcade les a mis en évidence dans son rapport. C'est la question de la continuité des soins, de la continuité des parcours, ce que le secteur a depuis longtemps d'ailleurs mis en place. C'est la question de l'ambulatoire et que le domicile devienne le centre de gravité des soins, pour ne pas dire de l'hôpital. Et puis il y a un certain nombre d'autres notions qui ne sont pas encore déclinées dans nos pratiques. Et il y en a deux dont je voudrais parler. La première, c'est la notion de contrat. C'est la notion d'implication des personnes. Améliorer la citoyenneté des personnes, c'est aussi leur permettre de participer à la prise de décision concernant leur devenir, concernant leurs soins, concernant leur parcours, et leur permettre d'associer autant qu'elles le souhaitent leurs proches, c'est-à-dire leur famille, leur entourage, à ces prises de décision concertées et contractualisées. Un contrat, ce n'est pas laisser la personne décider en fonction de ses fantasmes ou de tout ce qu'elle souhaiterait possible son devenir. C'est aussi une confrontation à la réalité et c'est une concertation avec les référents sanitaires et sociaux qui sont en charge de l'accompagner. Ça, c'est la première chose que je souhaitais dire. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que pour l'instant, dans le décret et dans nos réflexions, on patine au niveau de la notion de la coordination. Et je pense qu'il y a un point qui est absolument crucial et qui est insuffisamment décliné, c'est comment se fait cette coordination. En sachant que si on respecte le principe du rétablissement et de l'empowerment, il n'y a pas à mettre un patron dans l'avion ou dans le système. Il y a à se concerter, il y a à mettre de la coordination. Mais le patron, c'est la personne. Et c'est finalement cette équipe resserrée autour de la personne qui va permettre de décider du contrat de vie, du contrat d'accompagnement de la personne. Je dis ça parce que c'est un modèle de soins qui est actuellement assez répandu en international, qui est un modèle d'équipe resserrée, qui associe...
Que vous appelez équipe référente, hein, c'est ça, hein.
Équipe resserrée, dans la littérature, et ou équipe référente. Et alors, dans l'équipe, il y a un accompagnant sanitaire, il y a un accompagnant social, dès le début du parcours, dès la sortie de l'hôpital, dès la première hospitalisation. Il y a la personne concernée, et puis il y a des personnes de son entourage qu'elle a souhaité mettre dans l'équipe resserrée. Et c'est l'ensemble de cette équipe qui assure le case management. Le case management n'est pas dévolu à une seule personne, c'est l'équipe qui porte le case management. Et ce que je voudrais dire aussi concernant la question des cas complexes, c'est que finalement le suivi de ces équipes, le suivi du devenir accompagné par ces équipes, montre qu'au cours d'une période d'observation qui va d'un ou deux, je ne sais plus si c'est un ou deux ans, 70% des personnes ont traversé un moment complexe dans leur parcours et ont eu besoin d'une intensification et de l'accompagnement et de la coordination. Donc être dans l'idée qu'on va répondre aux cas complexes par la nomination de personnes un peu extérieures au suivi de proximité qui viendraient résoudre la complexité, c'est me semble-t-il, il y a certainement des cas complexes qui arrivent au niveau des MDPH et qui sont des situations finalement relativement rares. Mais le plus courant, ce sont des personnes qui, à certains moments, traversent des moments de crise et qui ont besoin d'une intensification de cette coordination autour d'eux et à laquelle ils doivent participer pour dépasser le moment complexe.
Alors vous pouvez aussi réagir aux propositions, bien évidemment, les uns les autres. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Grissen ? Tim Grissen, donc, qui est directeur du laboratoire de recherche de l'EPS Maison-Blanche, du GHT Paris et Psychiatrie et Neurosciences.
Alors, donc je ne peux que réagir positivement à ce que vient de dire Christine. Très, 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 très virulent contre l'idée que le problème, c'est l'égalité d'accès aux soins. Le problème, c'est l'égalité d'accès à la santé. Il faut qu'on bouge sur les déterminants de la santé lorsqu'on parle d'égalité. Et elle a dit en secret, elle a chuchoté un mot qui n'existe pas en français. C'est un vieux mot latin, équité. On n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas tous les mêmes valeurs. Donc cette notion d'équité face à la santé, je sais que vous dirigez l'Agence régionale de la maladie de la Nouvelle-Aquitaine, mais... Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on ait un ministère de la maladie, un ministère de la santé qui commence à s'en occuper et non pas s'occuper uniquement de la maladie. Non pas attendre que les gens soient malades pour ensuite les soigner de manière égalitaire, mais agir bien en amont de cela et que ce soit une priorité de nos actions. La deuxième chose que je voudrais dire, ça concerne empowerment. L'empowerment, ça ne concerne pas uniquement les usagers du système de santé. Ça concerne tout citoyen en matière de santé. Le propos de Michel Girard sur les conseils locaux de santé mentale, ça serait génial si tout citoyen était formé à l'école en matière de santé mentale. Si déjà, au niveau du quartier, il y avait des compétences multiples par des gens déjà formés en milieu scolaire sur qu'est-ce que c'est que la bande santé mentale. Et comment est-ce que je peux agir pour accompagner quelqu'un qui est en difficulté? Si ça, c'était déjà acquis lorsqu'on sortait de l'école, comme ça se fait dans de multiples autres pays.
Par exemple?
Ben, je suis désolé, mais je suis australien, donc je suis obligé de revendiquer l'Australie. L'éducation à la santé mentale à l'école, dépression et alcool, tu fais de l'âge de 11 à 15 ans. De 15 à 18, tu fais troubles de l'angoisse, tu fais psychose. Bref. Comment ?
Au Danemark.
Au Danemark, non. Plein de tous les pays nordiques. Je préside un réseau d'hôpitaux psychiatriques européens et d'universités européennes, mais tous les pays nordiques font ça.
C'est intégré dans le programme de leur éducation nationale.
Absolument. Et c'est enseigné non pas par des professionnels de santé. Non. C'est enseigné par des enseignants, comme l'arithmétique, comme l'anglais, comme le danois. Ça fait partie des acquis de tout citoyen. Lorsqu'on aura véritablement une société inclusive, parce qu'une société avec une culture de la santé mentale, et j'ai entendu le type de Grenoble, il est où? Il a parlé de promotion de la santé mentale. C'est génial d'entendre une région en France qui qui prend cette idée de promouvoir la santé des gens, donc d'agir sur les déterminants de la santé, c'est ça notre avenir. Et c'est ça où on a besoin d'une psychiatrie qui revit.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans le décret alors pour ça va être compliqué là. Pardon, Monsieur
Maresco.
Monsieur Maresco, voilà, président de Santé Mentale France.
Le mari de Madame.
Accessoirement.
Oui, accessoirement. Je buvais du lait moi en écoutant effectivement. Le directeur de la santé et je ne sais plus comment le titre exact de Grenoble, M. Biot, parce qu'effectivement, c'était dans la journée la première fois qu'on évoquait la participation des citoyens, la participation des élus, enfin, à travers leurs services municipaux. Or, pour parler du texte, je ne vois pas ça dans le texte. Hein, c'est ce que je te disais au téléphone ou par mail hier. Alors, le texte, juste. Une petite...
Juste un point, le texte, il faut le prendre comme provisoire.
Oui, non, mais j'entends bien, heureusement. Mais bon, juste tout de même une petite parenthèse, le texte, je l'ai eu dans le bus hier matin entre Orly et le siège de la Fédération. Donc j'ai pas eu vraiment le temps d'analyser vraiment longuement. Mais enfin, ce qui me frappe, c'est ça, c'est l'absence... de tout ce qui n'est pas soit du sanitaire, soit du médico-social dans le parcours de santé d'une personne. Or, dans votre rapport, M. Laforcade, vous rappelez les choses que j'ai apprises quand je suis arrivé en psy, la dimension bio, psycho, sociale, autrement dit, des déterminants biologiques divers... psychologique de l'individu, ce qu'il a vécu, la façon dont il a perdu, et puis sociaux, c'est-à-dire tout son environnement, le travail, la violence, etc. Et si on veut faire des projets territoriaux de santé mentale, il faut que tous les gens qui sont susceptibles d'intervenir sur ces déterminants soient présents dans la construction du projet territorial de santé mentale. Il faut parler plus près.
Non. Oui. Il faut affirmer plus fort.
Il faut affirmer plus fort. Donc il faut que tous ceux qui peuvent intervenir sur les déterminants de la santé mentale interviennent aussi dans le diagnostic et dans l'élaboration du projet. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et de ce point de vue-là, pour moi, ça condamne l'idée que la CPT puisse être le pilote ou la matrice ou le siège de l'élaboration du diagnostic et du projet territorial. Parce que dans cette structure, ce sont les hospitaliers... Et ils peuvent y associer les usagers, etc. J'ai dit à Michel Girard que je n'ai pas été sollicité pour signer le communiqué élaboré par Christian Müller, mais que je ne l'aurais pas signé, parce que je pense qu'il est à côté de la plaque sur ce plan-là, sur l'analyse qu'il fait du décret. Donc je crois que c'est un élément déterminant si on veut que la santé mentale ne soit pas... soit l'affaire de tous. Et aujourd'hui, il faut que ce soit l'affaire de tous. Si on veut avoir des parcours corrects, il faut que ce soit l'affaire de tous. Deuxième chose que je souhaitais dire aussi, c'est que aujourd'hui, tout de même, on parle beaucoup de coordination, de concertation entre les différents secteurs intervenant auprès des personnes malades, en situation de handicap, etc. Mais il faut sans doute, de ce point de vue-là, continuer à faire évoluer les cadres législatifs, les cadres dans lesquels les uns et les autres ont évolué. Avant-hier, il y avait une très belle journée organisée par Santé Mentale France à Toulouse, au cours de laquelle est intervenu un juriste que vous avez auditionné, M. Laforcade, M. Jésus Sanchez, quel joli nom, qui rappelait à quel point certaines bonnes intentions comme de la discrimination positive peuvent avoir comme résultat indirect la stigmatisation et peuvent avoir indirectement comme résultat ou directement, aujourd'hui on voit comme résultat le fait de créer des réseaux, des cultures, des modes de fonctionnement tellement différents d'un intervenant au suivant ou à l'autre intervenant qui a une compétence différente que forcément, derrière, il faut se coordonner, il faut s'articuler, etc. Mais cette distinction du cadre légal qui a été faite, par exemple, lui citait effectivement la loi de 70-75 sur les lois de 70 et 75, 31 décembre 70, réforme hospitalière, juin 75, 30 juin 75 sur les et la loi sur l'handicap et la loi sur les institutions sociales et médico-sociales, ça crée de l'incoordination. Aujourd'hui, peut-être faut-il aussi faire évoluer, quand on parle des intervenants professionnels, pour le coup, faut-il faire aussi évoluer ces cadres pour faciliter les coordinations. On a tous, dans les hôpitaux, par exemple, mais de l'autre côté, dans les établissements médico-sociaux, des dizaines et des dizaines de situations à citer sur le patient qui est en crise dans l'établissement médico-social et que l'hôpital ne peut pas prendre, ou le patient qui pourrait sortir de l'hôpital, mais il faut l'avis de la MDPH et ça prend 4 mois, et résultat, au bout de 4 mois, il ne va pas bien. C'est bien parce qu'on a des cadres extrêmement contraignants et qui divisent le travail que on a certaines de ces difficultés, pas toutes. Et pour certaines, on peut sans doute les atténuer par amélioration du fonctionnement. Mais tout de même, je crois qu'il faut aussi jouer sur le cadre législatif. Troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'un projet territorial, une des conditions de réussite d'un projet territorial de santé mentale, c'est qu'il y ait une cohérence avec une politique nationale de santé mentale. Vous avez fait des constats tout à fait pertinents dans le rapport sur le thème de la formation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Formation des généralistes, formation aussi des psychiatres. Hein, on avait proposé, quand j'étais à la FEAP, que chaque psychiatre fasse au moins un semestre validé dans le secteur médico-social. Parce que j'ai vu des jeunes psychiatres qui ne savaient pas ce que c'était qu'un foyer d'accueil médicalisé. 3 ans après être... Si on veut, de ce point de vue-là, je pense avancer, j'ai essayé, j'oublie ce que j'allais dire.
Ça vous reviendra tout à l'heure. Vous
ça me reviendra, oui.
Voilà. Très bien. Alors, juste un truc quand même par rapport à ce que vous avez dit, M. Varesco. C'est un tout petit peu faux sur le fait que ce ne soit pas question du tout des gens qui pourraient travailler dans le champ social, puisque c'est écrit dans l'article 1, effectivement, dans les parcours de soins de vie, au sein du champ sanitaire, au sein du champ social et médico-social. Donc, c'est quand même cité.
Je ne parle pas du champ des professionnels. C'est que ça ne parle que des professionnels. Du soin, de la santé, du médico-social. Ça ne parle pas de l'éducation nationale, ça ne parle pas du médecin du travail, ça ne parle pas du chef d'entreprise.
Alors, Madame Perron, puisqu'elle ne s'est pas encore exprimée, docteur Sylvie Perron, président de la VME au centre hospitalier Henri Laborie à Poitiers, elle fait partie de la conférence nationale des présidents des CME centre hospitalier.
Je parle au nom de la conférence des présidents de CME de CHS. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, c'est contraint en 3 minutes de faire des constats. Ce que l'on peut dire par rapport aux constats qui ont été faits par Michel Lafourcade, c'est qu'on ne peut qu'être évidemment d'accord avec ce qui a été dit, ce qui avait déjà été rapporté d'ailleurs par les précédents rapports. Il y avait la Cour des comptes qui avait fait un beau tableau, je crois que c'est en décembre 2011, pour dire tout ça. Alors, effectivement, on en est là maintenant, et effectivement, le problème, la problématique, comment est-ce qu'on fait pour aller vers ce qu'on désire tous, je pense, c'est-à-dire aller vraiment plus loin dans la sectorisation. C'est quelque chose que l'on porte, la sectorisation, parce qu'elle a, comme vous l'avez rapporté, beaucoup d'avantages par rapport à la proximité, par rapport à la continuité des soins, mais elle a eu aussi beaucoup d'inconvénients. Et moi, en vous écoutant, je pensais à une année, il y a 30 ans à peu près, où je me suis retrouvée un 31 décembre, bloquée à Ouzilly, dans la Vienne, avec 50 cm de neige dans une famille de patients où j'ai passé finalement le réveillon parce que nous étions coincés après avoir fait le tour des familles. Donc, effectivement, je ne le fais plus et plus personne ne fait ça actuellement. Donc, c'est vrai que... pourquoi ? Alors, le pourquoi, il y a beaucoup d'éléments. On va pas revenir là-dessus. Comment on fait pour aller autrement vers l'avant et retrouver cette proximité au domicile ? Il y a beaucoup de choses effectivement à faire, mais il me semble qu'il y a des expériences, comme vous l'avez dit, qui sont intéressantes. Moi, je voudrais en citer d'autres parce qu'on a beaucoup parlé de deux choses. Sur la recherche, par exemple, je voulais quand même signaler qu'actuellement, depuis un an à peu près, il y a une coordination nationale de la recherche en psychiatrie qui fédère donc des dispositifs régionaux entre les universitaires et les psychiatres de secteur. Donc ça s'est fait entre les universitaires et la conférence pour pouvoir développer une recherche justement sur le terrain, sur les parcours aussi. Ça va sortir aussi les universitaires de l'abord uniquement neurosciences, qui est prépondérante actuellement, qui est très importante, mais il n'y a pas de recherche sur les parcours, notamment par rapport au secteur, et ça, je pense que c'est un élément important. La dernière réunion qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, on voit bien qu'il y a de plus en plus de participants, et on espère bien que ça fasse boule de neige, parce que notre problème aussi, c'est de pouvoir généraliser les bonnes pratiques. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse vous présenter tout à l'heure le dispositif aussi qu'on a mis en place à partir de la charte de la médecine générale et des praticiens de secteur, parce que là, on a une expérimentation sur 6 sites qu'on voudrait bien aussi pouvoir généraliser. Alors, c'est compliqué, en fait, de généraliser les choses quand il y a des bonnes pratiques. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Et ce qui est très compliqué aussi, c'est tout le maillage avec le social et le médico-social, parce que ça prend beaucoup de temps. Travailler en partenariat, c'est très intéressant, mais ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à faire de l'empowerment, concept que je connais bien aussi, il faut vraiment que le maillage soit solide sur le terrain. On ne fait pas de la psychiatrie hors sol.
Alors vous êtes d'accord sur le principe, mais vous vous posez la question de savoir si c'est possible. C'est ça pour des
questions. C'est possible, mais il va falloir du temps. D'ailleurs, la dame de la nappe l'a dit tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes pratiques, pouvoir les diffuser sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations à faire de nos collègues. Tout le monde n'est pas au même niveau. Tout le monde ne fait pas la même chose.
De sensibilisation peut-être aussi, non ?
Comment ?
De sensibilisation peut-être aussi ?
Alors la sensibilisation, elle est faite déjà. Il y a des formations, il y a des DU sur tout ce qui est réhabilitation psychosociale. Mais ça n'est pas non plus la seule chose que fait la psychiatrie. On n'a pas du tout évoqué aujourd'hui, par exemple, le problème de la radicalisation pour lequel nous sommes sollicités actuellement. La psychiatrie doit suivre l'évolution de la société. Donc on a aussi des réponses qui nous arrivent comme ça, si vous voulez, qu'il faut qu'on arrive à gérer aussi. C'est pour vous dire un petit peu toute la complexité. Et c'est vrai que souvent, on manque de temps.
Mais vous souhaitez être partenaire quand même de l'action.
Monsieur Gilles. Oui, je voudrais répondre à M. Demaresco pour le rassurer. Nous sommes absolument opposés à la communauté psychiatrique de territoire hospitalo-centrée. Seulement, il y a une contradiction entre cette partie de l'article de loi et tout ce qui suit après, qui n'est fait que de concertation d'un collège complet concernant le diagnostic, concernant le projet médical et concernant le contrat. Donc nous réclamons que c'est depuis des mois qu'il faut bien un support, un lieu de concertation. Ça nous paraît être naturellement cette conférence psychiatrique de territoire, mais à condition que tout le monde y siège à égalité. Parce que j'ai bien dit que les textes sont mal fichus. Bon, eh bien oui, sauf qu'il faut bien quelque chose. On ne va pas rajouter sur du rajouté. Donc nous espérons que les textes à venir vont permettre, parce que vous avez 100 fois raison, il faut inclure tout ce qui est prévu dans le texte. Sauf que ça n'a pas été mis à ce petit endroit-là. C'est pour nous une faille importante, parce que c'est fondamental qu'il y ait à ce niveau-là la même chose qu'au niveau des conseils locaux de santé mentale. C'est pas, nous n'avons aucun désaccord entre nous. C'est un problème de vocabulaire et surtout d'essayer de rattraper un texte, parce qu'on m'a objecté que dans la loi, c'était mis comme ça. Alors j'ai dit, bah, la loi, je vais vous démontrer qu'il y a un principe de légalité que je peux faire pour déformer et qu'on ne soit pas dans cette situation de monopole qui est absolument inenvisageable pour nous.
Pascal Mariotti.
On en parle souvent avec Michel en deux secondes. On s'est promis d'y travailler et pas qu'entre nous. On sait que la loi, dans la loi, la CPT n'était pas faite pour ça. Donc derrière, on a tordu le projet de décret tant qu'on a pu. Mais il fallait quand même que ça ne s'éloigne pas à 100 000 lieues de la loi. L'objectif, on l'a dit et redit, c'est pas de faire du sanitaire entre établissements hospitaliers à l'intérieur des GHT. C'est d'avoir un outil, enfin, parce que ce n'est qu'un outil, qui nous permette effectivement de développer de façon extrêmement transverse le pilotage des projets territoriaux de santé mentale. Alors, sauf que ça, on se le dit entre nous, ce n'est pas forcément toujours perçu comme ça, parce qu'évidemment, tout le monde lit le texte, on peut le lire de deux façons, hein, parce qu'il est, il y a une double lecture de ce texte. On a réussi, rappelle-toi, à intégrer complètement les usagers en tant que membres à part entière des communautés psychiatriques de territoire, ce qui n'était quand même pas complètement acté. On a eu une version du texte où tout membre était un membre plein. Il a fallu revenir, pour des raisons de conformité à la loi, à des membres associés. Donc, on sait que ce n'est pas cohérent. Et derrière, je pense qu'il faut qu'on produise une forme d'instruction, de préconisation sur le sujet, pour non pas revenir à la lettre du texte, mais au contraire, mais revenir à l'esprit, ou venir à l'esprit qu'on voulait lui donner.
Monsieur Lafourcade, alors, est-ce que vous voulez réagir? Aux réactions.
Juste deux mots d'abord pour répondre à la charge de monsieur Hérissen. Je vois qu'en bon Australien d'origine, vous avez une superbe culture rugbystique. En rugby, on dit la première mêlée, il faut surtout la pousser. Mais j'ai la même culture rugbystique, alors je vais pousser, moi aussi. Non, simplement pour vous dire que vous dites et ce que j'ai dit ne me paraît pas antinomique. C'est pas pour rechercher un consensus, c'est pas trop mon genre, mais ne me paraît pas antinomique. Je disais simplement que l'égalité d'accès aux soins est importante. Je ne disais pas que l'égalité d'accès à la santé ne l'était pas au moins tout autant. Et nous avons dans notre beau pays un vrai retard par rapport à vous. En termes de santé publique, vous avez baigné dans cette culture, ce n'est pas notre cas. Mais ça ne nous empêche pas d'y croire quand même à la santé publique. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas qu'on se contente de mots. Nous n'avons pas de santé publique, mais nous avons de bons auteurs. Corneille disait « les mots ne font rien à la chose ». Et je veux dire par là que répéter ce que je fais tous les jours, hein, répéter qu'il faut culturellement promouvoir la santé publique et la prévention ne me semble pas suffisant. Soyons honnêtes, il faut que chacun à sa place avance en attendant le grand soir qui fera, ou le petit matin, je ne sais pas, qui fera que, culturellement, nous serons tous acquis à cette idée. Très franchement, il y a dans cette salle beaucoup de directeurs d'établissements de santé. Est-ce que vous êtes tous sûrs d'être directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement de soins? En psy, vous faites beaucoup plus de prévention, notamment secondaire et tertiaire, qu'on ne le fait à l'hôpital général. Mais à l'hôpital général, c'est accablant. Et pourtant, l'hôpital général, comme d'autres, aurait la capacité de s'atteler à cette tâche et de dire « demain, je fais moi aussi de la prévention primaire ». Dans la région Nouvelle-Aquitaine, nous croyons beaucoup aux mots et nous croyons beaucoup aux évolutions culturelles, mais on croit aussi au portefeuille. Donc, chaque année, je pique 3 ou 4 millions à l'ensemble des hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine, en leur disant, vous ne les reverrez que si vous répondez à l'appel à projet hôpital promoteur de santé, et notamment de prévention. Donc pour vous dire qu'on en est vraiment persuadé, mais je crois qu'en dehors de ce phénomène culturel que vous appelez de vos voeux, et vous avez complètement raison, il faut aussi que cette évolution culturelle, on la précipite quelque peu, en se disant chacun à sa place, comment je peux aussi devenir auteur de santé publique, promoteur de prévention, et notamment de prévention primaire. L'hôpital a vocation à parler à toute la population, pas simplement à celle qui franchit la porte de l'hôpital. Rendez-vous à la deuxième mêlée.
Cela dit, Tim Grissen est aussi très pragmatique, puisqu'il a un projet de centre d'empowerment. Moi, je n'arrive pas à prononcer. Empowerment, c'est ça.
Il est clair qu'un autre de nos problèmes ici, c'est qu'en tant que décideurs, nous avons tous quelque chose en commun dans cette salle, quasiment. C'est quoi ? La vieillesse. D'accord. Le monde moderne, c'est un monde virtuel. La révolution sur dont vous priez pour une suite, ce qui était génial avec la création de secteur en France, magnifique invention, beaucoup plus tôt que les autres pays. Évidemment, il faut aller plus loin, il faut aller à domicile, comme dit Christine, avec ses équipes mobiles à domicile. Mais les jeunes aujourd'hui, la génération qui arrive, est déjà avec nous dans le monde virtuel. Comme la moitié de ces gens devant la salle, ils sont en train de regarder leur téléphone, là. Et ce monde virtuel, c'est le monde où les gens se forment, s'éduquent. C'est ça le monde de l'avenir. Et c'est ça aussi le monde de l'accompagnement à domicile. Et il faut vraiment qu'on y soit, qu'on recrute ces jeunes qui sont élevés avec cette langue-là.
Merci. Alors, non, visiblement, vous n'êtes pas sur vos téléphones ou vos smartphones. Moi, je vous vois, vous êtes concentré sur ce que disent les intervenants. Ça veut dire que peut-être vous avez envie de réagir. Vous levez la main, voilà, on vous passe les micros, puisque je crois qu'il y en a encore deux de disponibles.
S'il vous plaît, faites des trucs courts.
Attendez, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réactions, alors ça va.
On va faire des trucs courts, bien entendu. Simplement dire que j'étais ravie d'entendre le représentant de la mairie de Grenoble peut-être illustrer concrètement ce que doit être un projet territorial de santé. Moi, je vais jusqu'à provoquer l'auditoire à dire que c'est un contrat local de santé à un échelon territorial plus conséquent. En tous les cas, c'est le comparatif que je prends pour bien insister sur le fait que les établissements de santé, on n'est peut-être que 10% dans cette affaire-là. Je crois qu'il faut effectivement parler en ces termes pour bien dissocier le projet territorial de santé mentale du volet santé mentale des GHT. Je crois qu'effectivement, il y a une confusion entre les deux exercices et, je dirais, avec l'intervention de la mairie de Grenoble, je pense que chacun a pu réaliser les matériaux extrêmement riches que l'on peut récupérer auprès d'autres partenaires. Et la liste est longue. Et je vous assure qu'on peut construire ce projet territorial de santé mentale pas uniquement avec le RIMPE, mais bien évidemment avec le RIMPE, mais bien évidemment avec les contributions de chacun. Et l'autre point, c'était sur la gouvernance. Je vous entends reparler du comité, la communauté psychiatrique de territoire, que ça ne doit pas être le groupe de travail sur le projet territorial de santé mentale. Effectivement, je fais partie de ceux qui pensent qu'une vraie communauté psychiatrique de territoire ne se décrète après qu'après, lorsqu'on a donné du sens, effectivement, au projet partagé. Je rappelle, parce que ça n'est évoqué nulle part jusqu'ici, qu'il y a également une commission spécialisée de santé mentale qui doit se créer dans le Conseil territorial de santé, dont vous ne parlez pas, dont les désignations sont en cours, tant par les fédérations, et il y a également prévu la communauté psychiatrique de territoire, dont je disais le seul intérêt à la préfigurer, c'est d'être présent dans le Conseil territorial de santé, dont un certain nombre de membres doivent devenir les membres de la communauté spécialisée en santé mentale. Et je vous assure que pour arriver à mettre autour de la table, au niveau d'un territoire donné, les personnes compétentes, les psychiatres d'une part, dont chacun sait que la démographie est sinistrée, les représentants des usagers qui nous font des efforts pour venir à nos instances, et les autres partenaires, je n'oublie pas les élus locaux, il va bien falloir réfléchir sur le nombre d'instances, je dirais, permanentes qui doivent s'installer durablement sur nos territoires. Est-ce que la commission spécialisée du Conseil territorial de santé ne sera pas l'instance de suivi du projet territorial de santé mentale? C'est ma question.
Je peux répondre sur ce deuxième point.
Ah ben, répondez si vous voulez.
Oui, vous avez raison. Pour moi, c'est le plan B si on n'arrive pas à avoir ce qu'on voudrait avec Pascal. Parce qu'elle est très normée, cette commission. Elle a 21 membres, c'est très précis, très saucissonné, alors que moi, je partage l'avis de notre ami Maresco, il faut qu'on soit adapté au territoire. Donc, comme elle est très normée, bon, voilà, elle existe en cas de besoin.
Bon, monsieur Lafourcade, je pense que vous ne va pas réagir, parce que vous n'avez pas entendu la proposition, je pense. Voilà, il me semble.
Comment? Donc,
non, je disais, monsieur Lafourcade n'a pas pouvoir réagir, il n'a pas entendu la proposition. Donc que cette commission locale de santé mentale devienne en quelque sorte l'organe à partir duquel on prenne des décisions, quoi. Enfin, c'est ça, enfin, l'idée.
C'est
quoi.
Le plan B qu'on peut piloter, mais elle est très normée.
Alors. Ah, c'est une nouvelle version des soviets ou non, je sais pas. Je sais pas, ça mérite réflexion quand même. Ça mérite réflexion. Je n'ai pas entendu la totalité de la proposition, mais j'en reparlerai avec monsieur Girard.
Très bien. D'autres remarques ou d'autres questions, monsieur?
Oui, il me vient une question qui revient un peu sur ce que la dame a dit juste précédemment. C'est deux questions. Une, c'est premièrement sur quel territoire? Moi, je suis un acteur de base, donc je m'y perds un peu entre le territoire du GHT. On se rend compte aujourd'hui que les EPAD ont un risque de fongibilité important. Il y a le territoire d'action sociale, il y a le territoire de le conseil local de santé mentale. Donc, quelle cohérence de territoire? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est avec quel médecin? Puisque en fait, nos effectifs médicaux diminuent. Ils sont interpellés sur des missions de plus en plus variables. qui sont interpellés aujourd'hui sur la discrimination, sont interpellés de plus en plus sur des questions qui sont des questions sociales. Et aujourd'hui, on parle de déserts médicaux sur lesquels la psychiatrie est de plus en plus concernée. Donc, avec quel territoire et avec quel médecin?
La question est simple. La réponse, peut-être moins.
Vous me donnez une minute et demie, c'est ça? Sur les territoires, alors moi, je n'aurai surtout pas la réponse, mais je trouve votre question excellente. Il va falloir qu'on y réponde ensemble. On voit bien une accumulation de territoires possibles. Alors, en même temps, je ne rêve plus à un seul territoire identique pour l'ensemble des populations concernées et pour l'ensemble du champ sanitaire, social et médico-social. Nous n'y arriverons jamais. La question, quand même, c'est que pour la psy et la santé mentale, on essaie de ne pas avoir 3 ou 4 territoires différents. Celui du GHT, celui du projet territorial, celui des contrats, et pourquoi pas celui des communautés et des communautés psychiatriques. Donc, je crois qu'il faudra au moins pour ce champ-là qu'on essaie d'en avoir le moins possible. Et en ayant en tête quand même une obsession, c'est qu'est-ce qui correspond aux besoins de la population concernée. Quand un territoire est toujours le territoire d'une politique, par définition, pour mener cette politique, quel est le territoire cohérent par rapport à un bassin de vie? Quel est l'endroit où la population concernée va pouvoir trouver l'ensemble des dispositifs dont elle a besoin? Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu. Mais en tout cas, il faut que ce soit une question et une réponse que l'on porte collectivement. Pour ce qui est des médecins, cette question, vous la posez, beaucoup la posent. J'ai quand même toujours envie de faire la même réponse. C'est que nous sommes rapportés à la population, selon les études, le 3e ou le 4e pays en nombre de psychiatres, encore une fois, rapportés à la population. Si vous voulez, ça n'a pas changé. Ça dépend des études, mais on est toujours 3e ou 4e. Ça n'a pas changé. Ça veut dire que je crois qu'il y a 200 pays à l'heure actuelle. S'il en manque chez nous, il y a quand même 196 pays où il en manque encore beaucoup plus que chez nous. Je ne sais pas si nous en avons besoin de plus. En tout cas, si vous dites que dans certains territoires, il en manque, vous avez absolument raison. Mais pas plus vous que moi, nous n'avons la solution miracle pour une répartition plus harmonieuse. Et puis le dernier point, c'est que si dans certains pays tout à fait civilisés, il y a moins de psychiatres, j'ai la faiblesse de croire que ça veut dire que des actes faits dans d'autres pays par d'autres professionnels que les psychiatres sont faits chez nous, me semble-t-il, par les psychiatres. Et pour avoir croisé des centaines de psychiatres, pas simplement pour le rapport, mais dans ma vie professionnelle, c'est la question de la délégation de tâches, bien évidemment. Cette délégation informelle, vous la faites tous les jours. Vous la faites tous les jours à l'égard des infirmiers, à l'égard des psychologues. Elle ne peut pas être officielle à l'égard des psychologues. Ce ne sont pas pour l'instant des professionnels de santé, mais peu importe. Je me dis simplement qu'en attendant des solutions X ou Y, peut-être plus radical, il y a manifestement du travail peut-être à faire ensemble de ce côté-là.
Alors il y a monsieur dans le fond, puis madame devant. Monsieur dans le fond d'abord et madame ensuite.
Philippe Pichon, donc médecin généraliste en de santé à Grenoble. Juste, on vient d'aborder un tout petit peu le sujet sur le nombre de psychiatres disponibles. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, ou juste sur une intervention tout à l'heure, celui de la psychiatrie libérale. Dans tous les diagnostics dont on a parlé en première partie d'après-midi ou dans les solutions, dans les diagnostics de territoire, comment est-ce que vous positionnez la psychiatrie libérale, qui est l'intervenant le plus nombreux, celui avec lequel on a manifestement soit une absence de relation, soit une relation cachée, mais où est-elle pour vous, cette relation?
Peut-être seriez-vous plus à même que moi pour répondre à cette question-là, puisque vous devez la pratiquer au quotidien. Mais en tout cas, à l'évidence, il faut trouver un endroit où les psychiatres libéraux et les psychiatres publics peuvent se parler plus facilement et peut-être plus souvent qu'ils ne le font à l'heure actuelle. Alors j'ai envie de dire, prenons le bon prétexte de tous ces outils qui nous sont proposés, au-delà de ce qu'une circulaire ou un décret va nous imposer, pour trouver effectivement des endroits où cette discussion est possible. Moi, quand je propose, par exemple, un numéro unique pour l'ensemble de la population des médecins généralistes, 365 jours par an. J'ai envie de dire que derrière ce numéro unique, peut-être, j'espère que ce n'est pas horrifiant ce que je vous dis, il pourrait y avoir une permanence des soins assurée aussi par les médecins psychiatres libéraux, par exemple. Enfin, en tout cas, il va falloir qu'on trouve des endroits où cette discussion puisse être approfondie.
On a vu qu'en Bretagne, ça ne marchait pas hein, sur le 115. Bon. Qui est-ce qui voulait... Voilà, c'est vous.
Oui, je voulais vous... un peu vous interpeller sur ce nombre de psychiatres. En effet, nous avons plus de psychiatres en France que dans d'autres pays. Simplement, il faudrait peut-être aussi que la politique de la santé délègue aussi, par exemple, aux psychologues, comme dans la majorité des pays anglo-saxons, des tâches qui ne sont pas déléguées sous prétexte que ces psychologues à formation plutôt psychanalytique refusent la question de la prise en charge financière. Donc, vous avez un ensemble de fonctionnement qui fait que nous, psychiatres, moi je suis psychiatre hospitalier depuis 35 ans, nous avons assumé de plus en plus de charges variées, sociétales parfois, psychiatriques souvent. Je voudrais répondre aussi à M. Gérard. Moi, j'ai vu quand même l'évolution vers le domicile. Parce qu'il y a des années, on parlait de maison de retraite ou de foyer pour les personnes présentant des maladies psychiatriques chroniques. J'étais l'autre jour à une réunion à la MDPH et avec les médico-sociaux, on se disait qu'aujourd'hui, l'ambition des gens, et on les suit dans ce sens, c'est d'avoir un domicile à eux. Donc, on voit bien aussi un domicile à eux où ils ne sont pas isolés, laissés en jachère, hein, je suis d'accord avec vous. Donc, on voit bien aussi qu'il y a quand même eu une évolution d'une collectivisation d'un handicap et d'une dégradation vers une dignité de la personne. Je crois que ça, c'est aussi ce qu'a donné le secteur.
Allez-y. Professeur, pas sérieux.
Oui, je voudrais réagir sur la question de délégation des tâches et qui rejoint la question que j'évoquais tout à l'heure de l'intervention précoce du social auprès des personnes dès l'entrée dans les troubles, dès la première hospitalisation. Il me semble qu'à ce niveau-là, le secteur continue à assurer des missions qui sont des missions d'accompagnement social et qui sont finalement dont on peut se représenter en écoutant, puisque je vais réévoquer aussi moi ce grand moment quand même du fonctionnement du CCAS de Grenoble qui nous a tous beaucoup réjouis parce qu'on se dit que là il peut y avoir une volonté, il peut y avoir une ressource qu'on peut chercher à susciter dans d'autres environnements que Grenoble. En tout cas, tout ça pour dire que probablement dans un certain nombre de missions que nous assurons au sein de nos secteurs, il y a des missions qui auraient à être déléguées ou à être prises par des acteurs du social et à être prises en propre par les acteurs du social en co-responsabilité et sans que nous en soyons prescripteurs.
Bon.
Oui, je voudrais réagir à l'intervention de M. Lafourcade sur les effectifs des psychiatres et vous nous répondez, M. le directeur général, en nous indiquant qu'on a un nombre global de psychiatres comparable, si ce n'est supérieur, à celui d'autres pays. Donc je me présente Jean-Claude Lardy, directeur du CHS d'Ainay-le-Château dans l'Allier. Je voudrais quand même nuancer un tout petit peu votre propos, monsieur le directeur général, avec tout le respect que je dois à vos éminentes fonctions. Concernant la psychiatrie publique, qu'elle soit exercée par les PH dans les établissements publics ou dans les ESPIC, je puise mes chiffres à de bonnes sources, tout simplement dans le rapport d'activité du Centre national de gestion, donc qui est l'établissement public qui gère les directeurs et les médecins des hôpitaux. Concernant la psychiatrie, le taux de vacance des emplois autorisés est de plus de 25% en ce qui concerne les psychiatres exerçant à temps plein et de supérieur à 45% en ce qui concerne l'exercice à temps partiel. Ce qui, mis bout à bout, représente un déficit de 700 postes, 700 emplois de psychiatres à pourvoir en France. Alors, effectivement, que le nombre global, tout mode d'exercice confondu, soit celui que vous nous indiquez, je ne le conteste pas, mais je pense que votre réponse constitue, de la part d'un représentant des pouvoirs publics, un déni un petit peu commode.
Merci pour ce témoignage. Est-ce que, pardon, M. Grissot, vous voulez dire quelque chose ? Allez-y. Vous avez un micro devant vous sur la table. Oui.
Juste pour souligner le fait que lorsque je suis dans ce type de réunion dans d'autres pays, par exemple à Londres, la moitié de la salle va être des professeurs d'université, travailleurs sociaux. En Finlande, la moitié de la salle ici, ça va être des professeurs d'université, PUPH, machin truc, etc., etc., docteur Intel, la chancelière de l'université de Tampere, c'est une infirmière. D'accord ? Ça change dans d'autres pays, ça a changé. Les médecins jouent un rôle ici. Les psychiatres, comme les médecins, sont formés sur les soins. Ils ne sont pas formés sur la promotion de la santé. Ce sont d'autres compétences qu'il faut. Il faut des compétences de... Ce sont d'autres métiers qu'il faut. C'est aussi bête que ça. La proximité dont on parle tout à l'heure, votre question-là, la proximité, c'est la proximité dont il parle. Foncièrement, ça va finir comme une proximité politique. Savoie, Avoyeux, ses conseils locaux de santé mentale, etc., vont être gérés par le maire de la ville parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose d'important. C'est ça qui se passe dans les autres pays. On va y arriver. C'est un enjeu politique, la santé mentale. Il faut agir sur les déterminants de la santé mentale pour le changer. Non pas attendre 10 ans trop tard et ensuite devoir le soigner.
Oui, monsieur Marisco.
Un tout petit rappel tout de même sur David Kos. Rappelle souvent que sur les 22-23 milliards d'euros payés par les défunts en régime de sécurité sociale, les deux tiers ne relèvent pas des ONDAM hospitaliers. Donc les deux tiers sont faits en médecine de ville, libérale, enfin spécialisée ou générale. Et voilà. Bon.
Oui, très souvent dans les CMP en Angleterre, le psychiatre, il n'y a pas de psychiatre dans le CMP, il n'est pas salarié de la CMP. C'est un privé qui vient le mardi après-midi et le mercredi après-midi, et il est payé en tant que consultant.
Bien.
Et ce n'est pas forcément le bon système non plus, hein, mais...
Le temps passe un peu vite, comme vous pouvez le constater, et logiquement, il y a une Assemblée générale de l'ADESM à 18h, donc il y a un certain nombre de choses encore à faire avant cette Assemblée générale. D'abord, Sylvie Perron, vous nous avez évoqué il y a un instant une initiative intéressante qui s'appelle la charte de partenariat entre la médecine générale et la psychiatrie de secteur. Alors, sans le PowerPoint, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, il s'agit d'une charte qui a été signée en mars 2014 entre la conférence des présidents de CME et le Collège de médecine générale, qui a été donc l'organisme qui a été choisi après multiples échanges, parce que ce sont les médecins généralistes, en fait, qui travaillent, qui sont dans les universités actuellement et qui forment les internes. Donc, nous avons... co-signé une charte en 8 points avec qui représente le minimum nécessaire, nous semble-t-il, pour pouvoir améliorer la coordination entre tout ce qui a été dit dans la journée et s'y retrouve. Donc c'est le minimum qui nous paraît utile.
Alors qu'est-ce qu'on y trouve, les 8 points ?
Alors, ce qu'on y trouve, c'est avoir le courrier de sortie, avoir un courrier d'adressage dans un sens, un courrier de sortie dans l'autre, pouvoir avoir des consultations, enfin, pouvoir téléphoner facilement à son collègue, tous les relais qui sont nécessaires, pouvoir même intervenir à domicile conjointement entre l'équipe de secteur et l'équipe et le médecin généraliste, pouvoir avoir des consultations communes. Donc, à partir de là, parce que si je commence à rentrer dans le détail, à partir de là, si vous voulez, on ne voulait pas que cette charte reste simplement quelque chose d'une bonne pratique et que ça reste dans le comme ça. Donc on a voulu que ce soit opérationnel et essayer de le mettre en place sur le terrain. Donc on a monté un comité de pilotage entre donc la conférence et le collège de médecine générale. Ce comité de pilotage a décidé de faire des actions en fait pour le mettre en place. Avec donc sur des sites qui ont été choisis, à la fois sites ruraux, sites urbains et sites semi-urbains. Donc il y a 6 sites en France qui l'ont expérimenté. Des internes de médecine générale ont été chargés de se déplacer auprès des médecins. On a élaboré dans le comité de pilotage un questionnaire qui reprenait les 8 points, en fait. Ce questionnaire a été adressé à l'ensemble des médecins, psychiatres et médecins généralistes pour faire le point par site où ils en étaient par rapport justement au vécu et à la réalité de cette coordination. Donc les chiffres sont très mauvais partout. Tout le monde voudrait que ça s'arrange, mais la réalité n'est pas là. Donc partant de là, si vous voulez, les internes ont été chargés de faire... Enfin, ils se sont proposés pour faire leur thèse de médecine là-dessus. Ils ont contacté donc les médecins généralistes et les psychiatres, et sur chaque site,
sites. Il y a eu un retour donc, par site des réponses. Et puis après, la coopération s'est faite sur chaque site avec l'idée de faire en fonction des résultats, ce qu'ils voulaient mettre en place localement. Donc il y avait un trinôme à chaque fois avec l'interne, le psychiatre du CMP et les médecins généralistes qui gravitaient autour de chaque CMP. Donc nationalement, on a piloté l'ensemble des résultats du site. Et là, donc, du coup, chacun est parti, si vous voulez, après, avec un travail en commun. On avait eu au départ beaucoup plus de demandes que les 6 sites. On a dû un petit peu freiner parce qu'on c'était bénévole. Nous avions interpellé les ARS, mais ils étaient contents de notre travail. Mais une seule ARS nous a donné quelques moyens. C'était des moyens uniquement même pour avoir une location de salle pour se réunir. Alors, où on en est actuellement, c'est-à-dire que là, les groupes, en fait, se réunissent. Il y a vraiment des vrais échanges entre les psychiatres de CMP et les médecins généralistes. Donc, c'est quelque chose qui continue. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, tous sont partis sur des réunions conjointes. Réunions conjointes qui sont soit l'objet de formation-information, soit l'objet de parler de cas complexes, en fait. Hein, ça peut être effectivement, ça dépend des sites. Et à partir de, il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place. Là, je ne l'ai pas en tête complètement, parce que, voilà. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'au sein des établissements où il y avait le site pilote, ça a fait tache d'huile, c'est-à-dire que les autres secteurs se sont emparés de la charte pour développer aussi ce mode de communication dans leur secteur. Et là, ce qu'on espère, effectivement, c'est que ça puisse aller au-delà et se développer sur d'autres sites. Donc, on est aussi en lien de communication avec la HAS. On a communiqué avec le congrès du Collège de médecine générale les 2 années de suite. Partout où on peut communiquer, on essaye d'avancer par rapport à ça pour que ces bonnes pratiques se mettent en place, si vous voulez.
Donc, a priori, petit à petit, ça va, effectivement.
C'est ce qu'on espère. Ce qu'on veut vraiment, c'est essayer de mailler un petit peu le territoire et faire en sorte... Et en fait, contrairement à ce qu'on a pu entendre, c'est que quand il y a vraiment la volonté de se rencontrer et les gens viennent. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit, oui, les médecins généralistes ne viennent pas. Là, ils viennent. Donc, il y a quand même... je pense que c'est reconnu comme étant utile et qu'on espère.
Non, puis c'est bien, vous dites qu'au départ, déjà, il y avait pas mal de gens qui étaient motivés pour participer à l'expérimentation. Vous restez là encore quelques minutes, le temps d'une présentation, comme ça, on fera la conclusion, enfin, vous ferez votre conclusion, en quelque sorte, de l'échange.